Radio Vatican, France-Afrique.
Amis auditeurs, bienvenue à l'écoute de ce programme. Les caméliens sont indispensables à une église hôpital de campagne. C'est ce que le pape a affirmé lors de l'audience qu'il a accordée aux membres de l'ordre des clercs réguliers pour les malades réunis à Rome pour leur chapitre général afin d'actualiser la prophétie camilienne aujourd'hui. L'actualité politique et sociale en Afrique concernera notamment l'élection présidentielle en Somalie. Hassan Cheikh Mahmoud a été élu dimanche par les parlementaires somaliens.
Radio Vatican, France et Afrique, Marie-Josée Moindo.
Commençons l'actualité de l'Église par les activités du pape dans la journée de lundi. François a rencontré Mgr Jean-Sylvain Emiemambé, nonce apostolique au Mali. Le pape a reçu les membres de l'ordre des clercs réguliers pour les malades, les caméliens, réunis à Rome pour leur chapitre général. François les a remerciés pour leur mission auprès des personnes en souffrance, un style de vie et un apostolat qui conjugue le désir d'un témoignage ouvert et concret aux autres et le besoin de se comprendre soi-même selon les canons de la petitesse évangélique. Notre époque est marquée par un individualisme et une indifférence qui génèrent la solitude et font que tant de vies sont mises au ban. Face à ce constat, la réponse chrétienne ne réside pas dans l'observation résignée du présent ou dans le regret nostalgique du passé, explique le pape, mais dans la charité qui anime par la confiance en la Providence, aimer son temps et avec humilité témoigne de l'Évangile. Pour parvenir à ce résultat, le pape leur suggère avant tout de s'inspirer de leur fondateur. Comme Saint Camille de Lellis, il faut regarder la réalité de la souffrance, de la maladie et de la mort avec les yeux de Jésus. La prophétie camillienne sera ainsi une prophétie incarnée. Le pape souligne combien assumer le fardeau des autres requiert tant une ouverture docile à l'Esprit Saint. François invite les caméliens à puiser dans la sève des béatitudes pour porter avec douceur et simplicité la bonne nouvelle aux pauvres et aux plus petits d'aujourd'hui et à se rafraîchir mutuellement dans la confiance que le bien donné à une sœur ou à un frère qui souffre est un don fait à Jésus lui-même. Le pape les encourage aussi à ne pas négliger le souvenir du premier amour avec lequel Jésus a conquis leur cœur pour que le choix de vie consacrée soit toujours renouvelé. Le pape a enfin remercié les membres de l'ordre des clercs réguliers pour les malades dont l'identité et l'action sont indispensables à l'Église. Si nous voulons offrir aux gens un bon hôpital de campagne où les blessés peuvent rencontrer et sentir la proximité et la tendresse du Christ. François a reçu environ 80 membres de la fraternité politique de la communauté du chemin neuf en la salle Clémentine lundi 16 mai. Devant ces jeunes de 18 à 35 ans, l'évêque de Rome a développé un programme de politique au sens chrétien du terme, organisé autour du triptyque rencontre, réflexion, action, Delphine Allaire.
La politique est d'abord l'art de la rencontre, a relevé le pape, une rencontre vécue par l'accueil de l'autre en acceptant sa différence dans un dialogue respectueux. Comme chrétien, cependant, il y a davantage, puisque l'Évangile commande d'aimer nos ennemis. L'on ne peut se contenter d'un dialogue superficiel et formel, comme ces négociations souvent hostiles entre partis politiques, a prévenu le pape. La rencontre politique doit être une rencontre fraternelle, surtout avec ceux qui sont le moins d'accord avec nous. Sinon, la politique risque de se transformer en une confrontation souvent violente pour faire triompher ses idées en une recherche des intérêts particuliers plutôt que ceux du bien commun. Or, rappelle le pape, le tout est supérieur à la partie car la politique est aussi réflexion autour d'un projet commun dont l'Évangile est la boussole et non la défense d'intérêts particuliers. La politique, c'est enfin l'action. Le pape encourage la confrontation des idées avec l'épaisseur du réel. Si, dit-il, nous ne voulons pas construire sur un sable mouvant qui finit toujours par se dérober. N'oublions pas enfin que la réalité est plus importante que l'idée, a-t-il conclu, rappelant ce mot du pape Pie XI, qui début XXe siècle assimilait la politique à la forme la plus haute de la charité.
Le Saint-Père a reçu en audience les recteurs des 13 universités publiques étatiques et non étatiques de Rome et du Latium, réunis dans la coordination régionale des universités du Latium. Les universités, en ce moment historique, se voient confier une tâche de grande responsabilité. Les années de la pandémie, la propagation en Europe de la Troisième Guerre mondiale, la question environnementale mondiale, la croissance des inégalités nous interpellent dans une situation sans précédent et de manière accélérée, a relevé le pape. Un défi qui a une forte implication culturelle, intellectuelle et morale. Ce scénario fait face aux jeunes générations, risquant de générer un climat de découragement, de désarroi, de perte de confiance, voire d'addiction. Il est donc temps d'investir massivement dans l'éducation. Et pour cette raison, le Pacte mondial sur l'éducation est en cours d'élaboration, c'est-à-dire un projet de travail conjoint à l'échelle mondiale qui implique de nombreux interlocuteurs, des grandes religions aux institutions internationales, en passant par les établissements d'enseignement individuels. Le pape François a canonisé dimanche 15 mai 10 nouveaux saints. Après cette célébration, quelques fidèles venus d'Afrique se sont exprimés au micro de Radio Vatican. Ignace Sawadogo, venu du Burkina Faso, dit sa joie d'avoir participé à la canonisation de Charles de Foucault.
En tout cas, ça nous fait plaisir d'être là. Et en même temps, on a découvert beaucoup de choses de Charles de Foucault. Et bon, il y a des choses qu'on ne savait pas, mais avec ça, on a découvert beaucoup de choses.
Qu'avez-vous découvert de Charles de Foucault qui vient à peine d'être canonisé?
On le lisait des livres, on voyait, mais en réalité, aujourd'hui, on peut dire qu'on a touché quelque chose de réalité.
Et vous avez pris part à la messe de canonisation. Qu'est-ce qui vous a le plus touché de toute cette célébration?
Ce qui m'a beaucoup touché, la fraternité. La fraternité, en fait, c'est l'exemple que le monde doit prendre aujourd'hui.
Ignace Sawadogo du Burkina Faso. La sainteté passe aussi par la fraternité. C'est aussi ce qu'a retenu Thérèse Kamga. Pour elle, le message de fraternité est très utile pour la construction de la paix, notamment dans son pays, le Cameroun. On l'écoute.
La canonisation de Frère Charles, parce que ça fait 72 ans que cette fraternité existe au Cameroun.
C'est la fraternité séculière Charles de Foucault du Cameroun?
Oui.
Et donc vous suivez sa spiritualité?
Oui, depuis que j'ai 13 ans. J'ai connu Charles de Foucault, j'avais 13 ans, et je viens à sa canonisation à 63 ans.
Et qu'est-ce qui vous marque particulièrement de la vie du frère Charles de Foucault?
C'est sa simplicité, sa tendresse et fratelli tutti que le pape a dit. Nous sommes tous frères.
Un mot de la fin, un message que vous avez?
J'ai prié aussi pour qu'il y ait la paix au Cameroun, au nord-ouest et au sud-ouest, pour que les anglophones et les francophones, en dépit de tout, sachent qu'ils sont des frères.
Thérèse Kamga, originaire du Cameroun, elle a participé dimanche à la messe de canonisation, propos recueillis par Stanislas Kambash. En activité du Saint-Siège, le cardinal secrétaire d'État Pietro Parolin est intervenu à une conférence organisée ces jours-ci par l'ambassade du Maroc près le Saint-Siège à l'université pontificale urbanienne à Rome. Le cardinal secrétaire d'État a rappelé les bonnes relations entre le Vatican et le Maroc tout en réitérant les appels du pape à un engagement concret pour mettre fin au conflit en Ukraine. En cette période marquée par une violence insensée, le Saint-Siège s'engage à contribuer à l'effort de paix qui, avec la justice et la fraternité, est aussi un don de Dieu que nous implorons ardemment. La pandémie et le conflit en Ukraine sont les préoccupations majeures auxquelles il faut répondre par une architecture de paix que les institutions de la société contribuent à créer. Mais il y a aussi, explique le cardinal Parolin, un métier de paix qui nous concerne tous. Notre monde, affirme le cardinal secrétaire d'État, a soif de paix et de ce bien invisible qui exige l'effort et la contribution constante de tous. Même face à la pandémie, ajoute le cardinal Parolin, il faut développer des processus concrets au service de la paix, plaçant la dignité sacrée de la personne humaine et le respect du bien commun au centre de toute action. L'actualité de l'Église nous conduit à présent en République démocratique du Congo, où Jean-Baptiste Malenge Kalunzu nous fait part de l'engagement de la Conférence épiscopale nationale dans les préparatifs de l'accueil du Saint-Père François qui visite la République démocratique du Congo du 2 au 5 juillet.
Au diocèse de Bassankoussou, dans la province de l'Équateur, la collecte s'est organisée pour recueillir aussi bien de l'argent que des biens en nature. Les 20 paroisses du diocèse se sont préparées à collecter plus de 13 millions de francs congolais, mais il faut ajouter des biens en nature, des 36 écoles maternelles et de 302 écoles primaires et 480 écoles secondaires, selon l'évêque Mgr Joseph Mokobé.
Les écoles maternelles, les 36, ont trouvé qu'il faudrait que chaque école offre au Saint-Père un oiseau très réputé et très recherché ici, la pintade. Pour les écoles primaires, ce sont alors les brebis. Et les écoles secondaires disent, bon, il faut que le Saint-Père mange bien, alors nous allons lui offrir un grand porc.
L'évêque de Bassankoussou enseigne que le diocèse s'est mis en prière pour un accueil digne du Saint-Père dans le pays et une commission a été mise en place pour la sensibilisation.
Bien accueillir le Saint-Père, c'est d'abord le connaître et prier pour lui. Et nous préparer aussi en chrétien.
Jean-Baptiste Malenge Kalunzu pour Radio Vatican.
Au Bénin, Guy Dosuyovo nous fait part de la clôture des festivités marquant le centenaire de naissance du cardinal Bernardin Gantine.
Ouverte le dimanche 8 mai 2022, les festivités ayant marqué le centenaire de naissance du cardinal Bernardin Gantine ont connu leur épilogue le samedi 14 mai 2022. C'était au cours d'une messe pontificale présidée en l'église paroissiale Saint-Michel Beto de Cotonou au Bénin par Mgr Victor Agbanou, évêque de Lokusa, président de la conférence épiscopale du Bénin. Il était entouré de tous ses autres collègues évêques avec la présence du nonce apostolique près le Bénin et le Togo, Mgr Marc Guérard Miles, et Mgr Agbanou dans son homélie d'affirmer.
À la vérité, parler du cardinal Gantin revient à rendre grâce, Père des siècles du monde, qui a daigné faire entrer le Bénin de Dahomey d'hier dans le cours de l'histoire universelle à travers le choix de l'un de ses fils, Bernardin Gantin, de lumineuse mémoire.
L'autre temps fort des manifestations de ce centenaire a été le colloque organisé la veille, vendredi 13 mai, à l'Institut Pontifical Jean-Paul II, sous le thème « Éducation et développement, le rythme de Bernardin Gantin ». C'est l'évêque de Porto Novo, Mgr Aristide Gonzalo, qui a prononcé la conférence inaugurale intitulée « Éducation et enseignement, un service d'actualité ». Guy Dosuyovo, Cotonou pour Radio Vatican.
Dans quelques instants, l'actualité sociopolitique.
En Somalie, Hassan Cheikh Mahmoud, 66 ans, déjà président entre 2012 et 2017, a été élu dimanche par les parlementaires somaliens face au chef de l'État sortant, Mohamed Abdoulaye Mohamed. La communauté internationale a salué lundi cette élection d'Hassan Cheikh Mahmoud, l'appelant à prendre en main les problèmes de ce pays paralysé depuis plus d'un an par une profonde crise politique. Cette élection, qui devait initialement se tenir au plus tard en février 2021, met fin à plus d'un an d'atermoiement et de crise politique autour de l'organisation du scrutin dans ce pays meurtri par l'insurrection des islamistes Chebab et menacé par la famine après une sécheresse d'une ampleur historique. Depuis plus d'un an, les partenaires internationaux de la Somalie n'avaient eu de cesse d'appeler les autorités à conclure le processus électoral pour se concentrer sur ses priorités. Une quarantaine de supplétifs de l'armée et de civils ont été tués samedi lors de trois attaques menées par des djihadistes présumés dans le nord et l'est du Burkina Faso. Cette attaque, une des plus meurtrières, a visé les volontaires pour la défense de la patrie, supplétifs civils de l'armée, d'abord ceux de la commune de Guessel dans la région du Sahel au nord. Ensuite, le même jour, cinq autres supplétifs et un civil ont été tués à Markoy, dans la même région. Des mesures ont été prises pour envoyer des renforts dans la zone et la protection des populations durement éprouvées. Le Burkina Faso, il faudrait le redire, est la cible d'attaques djihadistes depuis 2015, perpétrées par des mouvements armés dont certains sont affiliés à Al-Qaïda et au groupe État islamique et qui ont fait plus de 2000 morts et 1 800 000 déplacés.
Radio Vatican, France et Afrique, Marie-José Moindo.
Les autorités maliennes ont annoncé dimanche quitter le G5 Sahel et sa force anti-djihadiste, une organisation qu'elle accuse d'être instrumentalisée par l'extérieur et dont elle est empêchée d'assurer la présidence pour mieux l'isoler, selon Bamako. Après le départ annoncé du Mali, l'organisation régionale sahélienne est réduite à 4 pays, la Mauritanie, le Tchad, le Burkina Faso et le Niger. Ce départ isole encore plus le Mali de ses voisins alors que Bamako est depuis le 9 janvier la cible de mesures économiques et diplomatiques des États ouest-africains pour sanctionner l'intention de la junte de se maintenir au pouvoir. Encore plusieurs années, après deux putschs en août 2020, puis en mai 2021. Il survient aussi après l'annonce début mai par la junte de la fin du traité de coopération de 2014 avec la France, ainsi que des accords de 2013 et 2020 fixant le cadre juridique de la présence de la force anti-djihadiste Barkhane et du regroupement des forces spéciales européennes Takuba initié par la France. En Algérie, un ancien responsable militaire a été condamné à la peine capitale. L'adjudant-chef Germit Bounouira, qui a comparu jeudi devant la cour d'appel de Blida, à 50 km au sud d'Alger, était poursuivi pour divulgation d'informations confidentielles touchant aux intérêts de l'armée et de l'État, collecte et transmission d'informations à des parties ou des pays tiers. Il était aussi accusé de violation de l'obligation de réserve dans le but de porter atteinte à la sécurité et aux intérêts de l'État. Ancien secrétaire particulier du chef d'état-major et vice-ministre de la Défense, Ahmed Gaïd Salah, décédé en décembre 2019 d'une crise cardiaque, M. Bounouira avait été remis le 30 juillet 2020 aux autorités algériennes par la Turquie, pays où il s'était enfui.
Vous écoutez Radio Vatican, c'est l'heure du magazine.
Le magazine sur la santé avec Françoise Niamien.
La santé, un problème pour tous, un défi pour les sociétés et l'Église en Afrique.
Nous parlons de santé en lien avec le cinéma. La cérémonie de récompense de la 3e édition du Festival du film de l'Organisation mondiale de la santé OMS, La santé pour tous, a eu lieu vendredi 13 mai dernier. Pour cette édition 2022, le jury a récompensé 7 courts-métrages et accordé 6 mentions spéciales pour mettre en lumière des histoires de santé fortes illustrant des problèmes de santé qui surviennent partout dans le monde. Ils étaient plus d'un millier de cinéastes de plus de 110 pays à soumettre des courts-métrages pour la 3e édition de ce festival, La santé pour tous, sur des thèmes allant des traumatismes de guerre à la vie en temps de COVID-19, en passant par la santé des femmes et bien d'autres encore. Quelques 70 courts-métrages ont été retenus pour figurer parmi les finalistes et être visionnés par un jury composé d'acteurs d'envergure internationale, de responsables du développement et d'experts de haut niveau de l'OMS. Ces courts-métrages captivants qui combinent une narration puissante avec des informations de santé publique importantes dépeignent l'énorme éventail de défis de santé auxquels les personnes sont confrontées chaque jour dans le monde entier, a déclaré Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus, directeur général de l'OMS. Avec 3500 candidatures reçues sur 3 ans, le Festival du film de l'OMS La santé pour tous a maintenant fait la preuve que les courts-métrages peuvent faire bouger les choses et sensibiliser à ces questions de santé importantes, tout en poussant à agir dans le domaine de la promotion et de la protection de la santé, a ajouté Dr Ghebreyesus. Sharon Stone, actrice américaine, lauréate d'un Golden Globe, et d'Enemy Herod, productrice et militante en faveur de différentes causes humanitaires et du domaine de la santé, a fait savoir qu'il s'agit de sensibiliser davantage aux mesures cruciales qui permettront de rendre les conditions de vie plus saines dans le monde entier. Les documentaires que nous avons visionnés étaient tous tout simplement merveilleux. Les histoires sélectionnées nous parlent de la valeur intrinsèque d'être en bonne santé et d'avoir accès à la santé. Elles défendent également la cause de la couverture sanitaire universelle, qui est un droit très important. C'est un droit humain pour chacune et chacun où qu'on habite, a-t-elle indiqué. 4 prix spéciaux sont également remis dans les catégories suivantes: films produits par des étudiants, films portant sur la réadaptation, films portant sur l'innovation en santé et très courts métrages. Pour Emilia Clarke, actrice britannique, activiste dans le domaine de la santé et jurée de la 3e édition du Festival du film de l'OMS La Santé pour tous, la réadaptation est une question qui lui tient à cœur et en laquelle elle croit profondément. Elle dit avoir été particulièrement touchée par le visionnement des films de la catégorie spéciale sur la réadaptation pour les personnes touchées par des lésions cérébrales. La réadaptation permet de remonter la pente pour redécouvrir que vous êtes toujours la même personne, a-t-elle souligné. Rappelons que le jury a récompensé 7 courts-métrages et accordé 6 mentions spéciales, notamment le Grand Prix d'urgence sanitaire intensif du Royaume-Uni cas grave de COVID-19, présenté et réalisé par Oliver John Pright du Royaume-Uni. Prix spécial à très court-métrage, Maquiller mes blessures, violence fondée sur le genre, présenté et réalisé par Terry Andiambo Mbaka du Kenya. Selon l'OMS, les 70 films finalistes sont visibles en ligne et regroupés en 6 listes de lecture.
Invité du jour.
Huit mineurs sont coincés depuis le 16 avril à plusieurs centaines de mètres sous terre dans la mine de zinc de Perkoa à l'ouest de Ouagadougou, la capitale du Burkina Faso. Monsieur Jean-Alphonse Sommé, ministre burkinabé des mines et des carrières, revient sur les circonstances qui ont provoqué cette catastrophe et les efforts en cours pour la résolution du problème.
Le 16 avril, à l'aube, il y a une forte pluie dans la zone de la mine et dans la zone de Koudougou-Rio. Cette forte pluie a provoqué donc une inondation de la mine et de ses environs. Le grave problème s'est produit au niveau de la mine, puisque il y a un petit ruisseau qui devait être dévié, qui n'a pas pu être dévié au niveau de la mine. Là. Il y a une exploitation à ciel ouvert sous forme de carrière.
Une exploitation artisanale?
Non, pas artisanale, c'est une exploitation industrielle. Donc, il y a une exploitation à ciel ouvert, qu'on appelle carrière, et il y a une exploitation souterraine. Donc, la carrière a été remplie d'eau. Comme il y a eu des travaux qui ont fragilisé le fond de la carrière, l'eau est rentrée dans la mine souterraine. Je peux vous rappeler que la mine souterraine a une profondeur actuellement de 710 mètres. Donc, l'eau est rentrée dans cette mine souterraine et a rempli depuis le fond 710 mètres-là, jusqu'au niveau 520. Donc, de 710 mètres en profondeur jusqu'au niveau 520, il n'y avait que de l'eau. Et l'eau a occupé tous les espaces qui étaient vides. Voilà. Donc, la catastrophe a été déclarée et les secours ont permis à ce qu'un certain nombre d'employés qui étaient dans le sous-sol puissent s'échapper. Et ce qui est resté, c'est 8, quand on a fait le point, c'est 8 travailleurs qui n'ont pas pu retrouver la surface du sol. Et donc, depuis, il est question d'opérer afin de vider l'eau de la mine souterraine-là pour que, pouvoir retrouver les 8 travailleurs qui sont depuis ces temps-là sous terre. Il y a un dispositif de secours dans les galeries de la mine souterraine. Et nous espérons fortement, depuis ce moment où on a commencé à pomper l'eau, que ces travailleurs qui ont l'habitude ont pu regagner la chambre de refuge qui se trouve au niveau 580 mètres.
Ces travailleurs sont des mineurs?
C'est des mineurs. C'est ceux qui travaillent dans le fond de la mine au quotidien. Normalement, ces travailleurs-là sont habitués et nous espérons fortement qu'ils ont pu rejoindre la chambre de refuge.
Oui, depuis le 16 avril, ça fait un mois. Et avez-vous quelques signes? Avez-vous quelques signaux qu'ils sont sains et saufs?
Bien, je pense qu'on ne parle pas en ces termes. Nous avons un espoir parce qu'il y a un dispositif qui est mis en place dans la chambre des mines et s'ils ont pu rejoindre la chambre de refuge, il y a un dispositif qui est mis dedans. Il y a de la nourriture, il y a de l'eau et il y a de l'air comprimé qui arrive depuis l'extérieur de la mine pour gérer un peu les questions de ventilation et de respiration.
Vous arrivez donc à communiquer avec eux?
Il n'y a pas eu de communication parce que il faut dire que lorsque le torrent dévalait la pente, ce torrent de là, pratiquement tout arraché. Donc il y a eu même coupé de l'électricité. Mais ce qui est quand même miraculeux, on a vu qu'il y a quand même un échange d'air entre l'extérieur et la chambre de refuge, donc la question.
Et outre l'électricité, quelles sont d'autres difficultés aujourd'hui pour faire face à cette situation?
Bien, donc dans un premier temps, l'électricité a été rétablie. Le problème, c'est que la voie qui descend jusqu'à ces niveaux-là était fortement dégradée. Donc, même pour acheminer les éléments tels que les pompes, parce que c'est un nouveau système qu'il a fallu installer. Donc, à partir du moment où on a connu de grosses quantités d'eau, il y a environ 164 000 mètres cubes d'eau qui est rentré dans le fond.
Donc, c'est ça la plus grosse difficulté.
La plus grosse difficulté, là, c'est arriver à extraire cette quantité d'eau-là pour arriver au niveau de la chambre de refuge, puis vérifier est-ce que les 8 travailleurs ont pu rejoindre la chambre des mines et dans quel état ils se trouvent. La grosse difficulté, là, c'est d'abord pomper de l'eau en dessous de 520. Ensemble, nous avons coordonné des actions pour réussir cela, même si jusque-là, on n'est pas tout à fait satisfait.
Monsieur Jean-Alphonse Sommé, ministre burkinabé des Mines et des Carrières, s'entretenait avec Stanislas Kambashi.
Pour plus d'informations et de nouvelles, consultez notre site internet www.vaticannews.va.
Chers amis, c'est la fin de cette émission. Marie-Josée Moindo-Boisboilo qui vous l'a présentée vous dit merci de l'avoir suivie. Au revoir et à très bientôt. Laudetur Jesus Christus.